Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous. Bienvenue dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes à 8 jours de l'élection présidentielle américaine. VOA Afrique vous propose à partir de ce lundi, dans ses différentes éditions, une page spéciale de 15 minutes consacrée aux élections américaines du 5 novembre. Actualité et analyse à venir. Au sommaire en cette matinée du lundi 28 octobre.
We have 9 days from now. And we're going to defeat Kamala Harris and we're going to win back the beautiful White House.
Philly, we've got 9 days. 9 days left in one of the most consequential elections of our lifetime.
C'est la dernière ligne droite pour les deux candidats à la présidentielle américaine. Donald Trump était hier au légendaire Madison Square Garden de New York, un bastion démocrate. Sa rivale Kamala Harris, elle, a fait du porte-à-porte. À Philadelphie, en Pennsylvanie, que proposent les deux candidats à la présidentielle en termes de politique étrangère face aux guerres en cours? Élément de réponse à suivre. Et puis, ces élections aux États-Unis concernent aussi des expatriés américains vivant en Afrique. On se rendra en Éthiopie. Dans la deuxième partie de cette édition, nous irons en Côte d'Ivoire où le gouvernement a entamé le rapatriement de ses ressortissants au Liban. Ce sera avant la page des sports d'Élysée Moupatin. Nous démarrons cette édition avec le point de la campagne américaine à un peu plus d'une semaine de la présidentielle. Donald Trump était hier au légendaire Madison Square Garden de New York, un bastion démocrate pour un grand meeting visant à le présenter comme le sauveur des États-Unis. Sa rivale Kamala Harris, elle, a opté dimanche pour des petits événements quasiment du porte-à-porte à Philadelphie, l'un des États clés, en mettant l'accent sur les communautés noires et latino. Michel Joseph fait le point sur la campagne des deux candidats à la présidentielle.
À New York, bastion démocrate où il est né et a fait fortune dans l'immobilier, Donald Trump a juré dans le célèbre Madison Square Garden de ne pas être un dictateur s'il est élu, sauf le premier jour pour fermer les frontières américaines, dit-il. Il a aussi promis d'expulser des millions de migrants qu'il accuse d'empoisonner le sang du pays. Le candidat républicain a accusé son adversaire démocrate et vice-présidente Kamala Harris d'avoir détruit le pays avec Joe Biden à la Maison-Blanche.
Kamala Harris a brisé notre classe moyenne. Elle a été le vote décisif qui a déclenché la pire inflation de l'histoire de notre pays. Elle a coûté à la famille américaine typique plus de 3 000 $ sur une courte période, mais plus de 30 000 $ au cours des 3 dernières années. Si Kamala Harris obtient 4 années supplémentaires, notre économie ne pourra jamais se redresser. Si je gagne, nous construirons rapidement la plus grande économie de l'histoire du monde.
De son côté, Kamala Harris a fait campagne dimanche, quartier après quartier à Philadelphie, la grande ville de l'un des États clés, la Pennsylvanie. La vice-présidente et candidate démocrate a serré des électeurs dans ses bras, câliné des bébés, courtisé des clients dans des commerces locaux et cité les Écritures dans une église africaine-américaine.
Let's be intentional.
Soyons engagés dans la construction de la communauté. Soyons engagés dans la construction de coalitions. Faisons preuve d'engagement. Comprenons que nous avons tous beaucoup plus en commun que ce qui nous sépare. Nous nous emportons mieux. Nous ne partons pas. Nous sommes une nouvelle génération de dirigeants optimistes et enthousiastes sur ce que notre nation peut faire ensemble. Et nous ne devons pas nous réveiller le lendemain de l'élection en regrettant ce que nous aurions pu faire au cours des 9 prochains jours. Alors passons ces 9 prochains jours en sachant que nous avons fait tout ce que nous pouvions faire.
C'est la 14e visite de Kamala Harris en Pennsylvanie, la 7e à Philadelphie, berceau de la démocratie américaine. Mardi, la vice-présidente sera à Washington DC, à quelques encablures de la Maison-Blanche. D'après la chaîne NBC, Donald Trump et son colistier J.D. Vance vont se rendre ce lundi à Atlanta, en Géorgie. Les deux se sont rendus dans cet État-clé à 10 reprises.
L'élection s'annonce toujours serrée selon divers sondages alors que les candidats n'ont plus que quelques jours pour convaincre les indécis. Pour une analyse, Mohamedou Oumfa joint à Montréal le politologue québécois Louis Balthazar, professeur retraité de l'Université de Laval.
Il y a toujours évidemment la grande vague anti-élitiste. Les gens ne croient plus ce qu'on leur dit, les gens ne croient plus aux politiciens. Cet homme qui a un message très simpliste, ça semble plaire aux gens.
Nous sommes quasiment à une semaine de l'élection. Les candidats jettent leur dernière force dans la bataille. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être déterminant, parce qu'il y a encore beaucoup d'indécis? Qu'est-ce qui pourrait changer les avis? Qu'est-ce qui pourrait être déterminant cette dernière semaine de campagne électorale?
Je pense que devant l'urne, en faisant cette décision finale, on se rappelle que la personne qui est candidate d'un côté est un criminel, quelqu'un qui a été l'objet de multiples accusations dont plusieurs apparaissent fondées. Et la grande majorité des personnes qui ont travaillé avec M. Trump et qui le rejettent, c'est quand même très fort qu'on y pense deux fois avant de voter pour le futur président des États-Unis. Ça peut jouer. Il me semble qu'il y a là quelque chose qui est plein de « common sense ».
Il y a des inquiétudes par rapport à l'issue des élections parce que les sondages annoncent des scores très serrés et on se rappelle que lors de la précédente présidentielle, il y a eu des contestations avec les événements du 6 janvier que l'on connaît. Est-ce que vous, personnellement, vous avez des inquiétudes par rapport à l'issue du scrutin?
Oui, sûrement. Il y aura sûrement des contestations. Pour peu que le résultat ne soit pas clair, surtout du côté des partisans de M. Trump, il y aura sûrement des contestations. Évidemment, des deux côtés, parce que si c'est serré, c'est sûr qu'on va demander des recomptages judiciaires. Et donc, on peut se trouver dans une situation analogue à ce qu'on a vécu en l'an 2000. Est-ce que la Cour suprême pourrait jouer le rôle qu'elle a joué à ce moment-là? Ça n'est pas impensable. Mais je serais très étonné qu'on ait un résultat définitif le 6 novembre prochain.
C'était le politologue Louis Baltazar à Montréal. Je vous l'annonçais en titre, on en vient à la politique étrangère américaine proposée par les deux candidats. La vice-présidente Kamala Harris estime que les États-Unis devraient donner l'exemple en bâtissant des alliances pour gérer les conflits. L'ancien président Donald Trump affirme que sa projection de force et son imprévisibilité peuvent empêcher les guerres avant qu'elles ne commencent. Patsy Widaskuswara de la VOA s'est entretenue avec des experts sur l'approche de politique étrangère qui serait la plus efficace pour limiter les conflits dans un contexte de guerre au Moyen-Orient et en Europe. Le récit est de Jacques Aristide.
En janvier 2025, Donald Trump ou Kamala Harris occupera le bureau ovale, la voie clé pour déterminer les intérêts géostratégiques des États-Unis et dirigera l'armée la plus puissante du monde.
Je n'ai pas eu de guerre, à part celle contre l'État islamique que j'ai vaincu. Mais c'était une guerre qui avait été déclenchée. Nous n'avons pas eu de guerre. Je pourrais arrêter les guerres d'un simple coup de téléphone.
Donald Trump n'a pas expliqué comment il mettrait fin aux guerres. Sous le président Joe Biden, la Russie a envahi l'Ukraine, alors que le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais ont attaqué Israël, ce qui a conduit à des représailles sanglantes des forces israéliennes, une campagne entamée il y a un an. Aucune guerre majeure n'a été déclenchée sous Trump et il n'a pas impliqué les États-Unis dans de nouveaux conflits armés, ce que ses partisans décrivent comme la paix par la force. Les démocrates affirment qu'il s'agit d'une coïncidence et qu'à la fin du mandat de Trump, les troupes américaines combattaient toujours en Afghanistan, en Syrie, en Irak et au Yémen. Il y a aussi l'imprévisibilité de Trump. Les historiens présidentiels parlent de théorie du fou. Via Skype, Thomas Schwartz de l'Université Vanderbilt.
L'idée selon laquelle prétendre ou du moins sembler prétendre être un fou en politique étrangère et riposter avec violence était une façon de faire preuve de force était importante et l'imprévisibilité dans ce sens pourrait être une vertu.
Les critiques affirment que l'imprévisibilité de Trump, combinée à ses intérêts personnels, est dangereuse dans un monde doté d'armes nucléaires. L'imprévisibilité peut également compliquer la gestion des conflits, selon Laura Blumenfeld de l'Université Johns Hopkins.
Une grande partie de la désescalade et de la diplomatie dépend en fait de la chorégraphie. Et la chorégraphie doit être prévisible. Donc, si vous savez ce que votre adversaire va faire pour la prochaine étape, vous pouvez l'amener jusqu'au bout sans le dépasser.
Sur le plan diplomatique, Kamala Harris est considérée comme plus traditionnelle. Comme le président Joe Biden, elle croit au multilatéralisme et à la création d'alliances pour maintenir le leadership mondial des États-Unis.
As vice president, I have confronted threats to our security.
En tant que vice-présidente, j'ai fait face à des menaces pour notre sécurité, négocié avec des dirigeants étrangers, renforcé nos alliances et engagé nos courageux soldats à l'étranger. En tant que commandante en chef, je veillerai à ce que l'Amérique dispose toujours de la force de combat la plus forte et la plus létale au monde.
Mais Kamala Harris, comme Donald Trump, pourrait être plus sélective dans la détermination des conflits qui nécessitent une réponse militaire américaine. Les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance mondiale. Hélène Lepson, de l'université George Mason.
Both Trump and Harris.
Trump et Harris, tous deux, n'ignorent pas le fait que le pouvoir se redistribue dans le système international, que d'autres pays ont également leur mot à dire, que la Russie et la Chine ont leur propre vue sur la manière dont l'ordre mondial devrait fonctionner.
La différence, selon Hélène Lepson, est que Kamala Harris croit au pouvoir rassembleur des États-Unis et serait plus encline à rallier les pays pour résoudre les problèmes ensemble. Elle poursuivra probablement les efforts de Biden en faveur de l'unité transatlantique pour soutenir l'Ukraine. Sur Gaza, elle a insisté sur le respect des lois humanitaires. Encore une fois, Laura Blumenfeld de Johns Hopkins.
Donald Trump dit au Premier ministre Netanyahou, faites ce que vous avez à faire au Moyen-Orient. Kamala Harris dit, vous avez le droit de vous défendre et vous devez prendre en compte la crise humanitaire chez les Palestiniens. L'un ou l'autre de ces deux choix mène-t-il à un résultat différent? Est-ce que quelqu'un écoute les États-Unis en fin de compte?
Alors que les Américains se rendent aux urnes, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, quel que soit le vainqueur, en novembre.
Bien qu'ils soient à des milliers de kilomètres de chez eux, certains expatriés américains qui travaillent pour l'ambassade des États-Unis en Éthiopie se préparent aux élections américaines et nombre d'entre eux soulignent les perspectives uniques qu'ils apportent au processus électoral depuis l'étranger. Eskinder Firoy s'est entretenu avec certains d'entre eux à Addis Abeba, récit d'Ilidiko.
Iva, qui n'a donné que son prénom pour des raisons de confidentialité, était avocate spécialisée dans l'environnement avant de rejoindre le service diplomatique. Elle est originaire du Maryland et travaille aujourd'hui à l'ambassade des États-Unis à Addis Abeba.
Je pense que l'Amérique se trouve dans une position unique car le reste du monde suit de très près les élections américaines, du moins l'élection présidentielle américaine, chaque fois qu'elle a lieu. En plus de nous tenir au courant des événements et du processus électoral, nous passons également beaucoup de temps à expliquer aux autres les détails technique des élections et de notre processus politique.
Somerville Evans, un électeur de Virginie inscrit sur les listes électorales, explique qu'en vivant en Afrique, il se sent quelque peu éloigné de la politique américaine, mais pas déconnecté.
C'est un peu plus calme à l'étranger. On n'est pas bombardé par autant de publicités, d'appels téléphoniques et d'autres choses de ce genre.
Une autre employée de l'ambassade, Marion Kamrani, qui vit à l'étranger depuis 15 ans, a déclaré avoir voté dans le Tennessee et à Washington, D.C.
J'aime suivre les deux candidats et ce qu'ils pensent à ces sujets, mais aussi les questions qui touchent tous les Américains, l'économie, l'immigration, la Constitution et les protections constitutionnelles.
Pour Christina Smith, originaire de l'Oregon et travaillant pour USAID en Éthiopie, voter à l'étranger est une expérience différente.
Ça me manque. Je rencontrerai mes amis et je parlerai davantage des problèmes. Cet enthousiasme et cette effervescence me manquent.
À l'approche des élections du 5 novembre, ces électeurs américains en Éthiopie restent engagés malgré la distance qui les sépare de leur pays. Leur voix, ainsi que celle de nombreux autres expatriés, pourrait jouer un rôle essentiel dans le choix du prochain président des États-Unis.
Merci, Dilidiko. Ici se termine cette page spéciale consacrée aux élections américaines. Dans quelques instants, la suite du journal. Vous écoutez VOA Afrique, l'édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous êtes toujours en compagnie de Yacouba Ouédraogo. Dans le reste de l'actualité, le président français Emmanuel Macron et le roi du Maroc Mohamed VI renouent ce lundi à Rabat. Des liens tendus par 3 ans de bruit, les deux dirigeants entendent tirer un trait sur une série de contentieux. Des soupçons d'écoute téléphonique du président Macron à la diminution par 2 du nombre de visas accordés aux Marocains en 2021 et 2022 pour pousser Rabat à reprendre ses ressortissants en situation irrégulière. Le Botswana élit ce mercredi son président et son parlement. L'ex-chef d'État Yann Kama est revenu d'exil il y a 6 semaines dans l'espoir de réparer ce qu'il a qualifié d'erreur en cédant sa place en 2018 au président sortant Mongweti Masisi qui brigue sa réélection. La croissance du pays s'est ralentie, souffrant de l'affaiblissement de la demande de diamants, sa principale source de revenus. Le chômage a dépassé 25% cette année et la disparité entre riches et pauvres reste l'une des plus élevées au monde selon la Banque mondiale. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche aux Canaries, dans les villes de Las Palmas de Gran Canaria et Santa Cruz de Tenerife pour protester contre l'immigration clandestine dans cet archipel espagnol. Jusqu'au 15 octobre, plus de 32 000 migrants irréguliers sont arrivés aux îles Canaries par la mer, contre plus de 23 000 au cours de la même période l'année dernière, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 21 personnes ont été tuées hier dans plusieurs frappes israéliennes sur le sud libanais, selon le ministère de la Santé libanais. L'armée israélienne avait lancé dimanche un appel à évacuer aux habitants de 10 villages dans le sud du Liban avant des opérations militaires contre le Hezbollah pro-iranien. Dans le secteur, au moins 1620 personnes ont été tuées au Liban en plus d'un mois d'hostilité, d'après un décompte de l'AFP. Le chef des gardiens de la révolution iranienne, Hossein Salami, a mis en garde Israël contre des conséquences après ses frappes samedi sur des sites militaires en Iran, selon l'agence de presse Tasnim. Le général Salami, chef de l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, a affirmé qu'Israël n'avait pas réussi à atteindre ses objectifs hideux avec ses raids, en parlant des mauvais calculs et en le menaçant de conséquences amères et inimaginables. En Géorgie, l'opposition appelle à manifester ce lundi après la victoire du parti au pouvoir pro-russe aux législatives. Le rêve géorgien aux affaires depuis 2012 était crédité dimanche soir de 54,8% des voix contre 37,58% à la coalition pro-Union européenne, selon les résultats annoncés par la Commission électorale centrale après dépouillement dans plus de 99% des circonscriptions. Washington et Bruxelles ont demandé qu'une enquête soit menée sur de possibles fraudes électorales. En France, Gérard Depardieu, visé par de nombreuses accusations de violences sexuelles, est attendu ce lundi au tribunal de Paris pour y être jugé pour agression sexuelle sur 2 femmes lors d'un tournage en 2021. Une des 2 femmes décoratrices de cinéma avait porté plainte en février 2024 contre l'acteur, inculpé pour viol dans une autre affaire pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrage sexiste pendant le tournage de ce film. Selon la plaignante de 55 ans, les faits reprochés se seraient déroulés en septembre 2021 dans un hôtel particulier à Paris. C'était tout pour l'actualité à présenter. Je vous présente, disons, à présent, les dossiers du jour. La Côte d'Ivoire a procédé ce week-end au rapatriement de son corps diplomatique et de ses ressortissants au Liban suite à la tension entre Israël et le Hezbollah. Une 60aine d'Ivoiriens ont déjà regagné leur pays en attendant d'autres vagues de rapatriement. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenio.
Il sonnait 7 heures à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny lorsque les Ivoiriens de Liban ont atterri sur le tarmac ce samedi. Vêtus de blousons, sous un soleil chaud et munis de leurs valises, ils ont l'air presque soulagés d'avoir regagné leur pays d'origine. Selon eux, il n'était plus possible de rester sur le sol libanais. Au Toukwamé, ressortissant ivoirien.
Nous avons fui les bombardements. Les bombardements au Liban qui ont commencé depuis le 27 septembre et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 mois. Donc imaginez que durant 1 mois, des détonations, des bombardements, des, je ne sais comment qualifier, perturbe notre vie. Les maisons que nous habitions, ça remuait ça. Ça remuait les verres, ça remuait les vitres. Et c'était horrible, c'était difficile à vivre.
Une première vague de rapatriement a eu lieu la veille. Elle était constituée d'une trentaine de personnes. Dans la deuxième vague, il n'y avait que 11 ressortissants ivoiriens. Les mesures sont en cours pour effectuer d'autres rapatriements, d'après Joachim Kouassi, directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères.
Sur une centaine d'Ivoiriens qui ont été inscrits sur les listes de l'ambassade, il y a une soixantaine qui a décidé volontairement de rentrer. Donc il y a une première vague de 30 personnes qui sont rentrées hier et aujourd'hui, nous avons une nouvelle vague qui est arrivée. Toutes les dispositions sont prises pour qu'ils puissent revenir en Côte d'Ivoire puisque les billets d'avion ont été émis. Tout est question de place sur les vols.
Les vols de rapatriement ont eu pour point de départ l'aéroport de Beyrouth. Les bombardements israéliens n'ont pas pu atteindre des lieux essentiels tels que l'aéroport, le port autonome de Liban ou les ambassades, dit Christophe Kouakou, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Liban.
Il faut dire qu'ils vivent dans des familles, donc généralement dans des régions reculées de la capitale. Donc on les inscrit au fur et à mesure, mais nombreux sont rentrés à la suite des différentes crises, notamment l'explosion au port de Beyrouth, la crise économique et puis maintenant dernièrement la guerre que nous connaissons. On n'a eu aucune inquiétude. L'ambassade est dans une zone sécurisée, les diplomates résident dans une zone sécurisée. Pour ce qui concerne le personnel et même les Ivoiriens d'une façon générale, on n'a eu à déplorer aucun cas de décès ou de blessés.
Tout comme la Côte d'Ivoire, plusieurs autres pays africains ont évacué leurs ressortissants du sol libanais. Parmi eux, le Sénégal, le Kenya, l'Algérie ou encore le Nigeria. Cela fait suite à la crise qui sévit actuellement entre Israël et le Hezbollah au Liban. Ange Bijounomeyon pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
La Société internationale d'énergie des Grands Lacs s'engage à connecter le réseau électrique du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Rwanda à ceux des communautés régionales environnantes en vue d'aider ces trois pays à combler leur déficit énergétique malgré les tensions politiques qui caractérisent la sous-région aujourd'hui. De Kigali, le récit de Jean Damascène Mainichimoui.
Depuis 40 ans, la Société internationale d'énergie des Grands Lacs, Sénélac en sigle, produit et partage de l'énergie électrique entre le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. C'est ce qu'explique Dieudonné Mozenzi, agent de cette société.
Chaque pays a en principe droit au tiers de la production de la centrale Ruzizi 2, la RDC, le Rwanda et le Burundi. Mais ça, ce sont des principes, c'est théorique, mais en pratique, il arrive que un des trois pays tire beaucoup plus d'énergie. À ce moment-là, il oblige les autres à prendre peu par rapport au quota dont chaque pays a droit.
Pour aider davantage ces trois pays, la Sénélac s'est engagée à interconnecter les réseaux électriques des pays avec ceux des communautés régionales environnantes. Innocent Irambona est agent de Sénélac.
Comme nous sommes interconnectés avec les trois pays, le Sama Rwanda était interconnecté avec l'Ouganda. Actuellement, le réseau de la CPG, nous sommes interconnectés avec le réseau de EAPP, East Africa Power Pool. Prochainement, l'EAPP sera interconnecté avec le réseau de la SADC.
Cependant, depuis quelques années, les différents politiques opposent le Rwanda et la République démocratique du Congo d'une part, et le Rwanda et le Burundi d'autre part, une situation que la société énergétique de ces trois pays tente de surmonter, comme l'indique Fidèle Ndayisaba, directeur général de la société énergétique Sénélac.
Il y a eu des difficultés qui ont occasionné la fermeture partielle ou totale des frontières, mais ce n'est pas le cas d'électricité. Le courant électrique généré par cette centrale continue d'être distribué entre ces trois pays. Nous félicitons d'ailleurs nos agents qui viennent de ce pays.
Pour les observateurs, les efforts conjoints des pays des Grands Lacs d'accroître leur production énergétique pourraient les aider à relever leur taux d'accès à l'électricité, estimé à environ 20% pour le Burundi, environ 38% pour la RDC et plus de 75% pour le Rwanda. Jean Damascène Chimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Nous sommes lundi et les nouvelles sportives nous viennent de Boïcon au Bénin. Nous retrouvons Élisée Nkpatin.
Bonjour Yakuba et bonjour à tous.
Bonjour Élisée. Emmanuel Adebayor raccroche définitivement ses crampons. C'était ce dimanche à travers un match de gala à Lomé.
Oui, une rencontre festive qui a vu la présence de plusieurs légendes du ballon rond dans un stade de Kégué qui a fait son plein. Absent des terrains depuis mars 2023, le Togolais a célébré officiellement la fin de sa carrière à travers également des dîners de gala et un concert géant qui ont marqué cet événement qui est aussi l'occasion pour l'ancien joueur de Metz, de Monaco ou encore de Manchester City et du Real Madrid de lancer sa fondation pour faciliter l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle.
Football toujours et on parle de sanctions. Le Nigeria obtient 3 points sur tapis vert après son triste déplacement en Libye dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.
Oui, la commission de discipline de la CAF a déclaré ce match perdu par forfait 3-0 pour les Libyens et une amende de $50,000 en prime. Une rencontre qui n'a jamais eu lieu, on se rappelle, puisque la délégation nigériane a été bloquée pendant plus de 15 heures à l'aéroport d'Alabrak avant de rentrer au Nigeria. Une situation aujourd'hui favorable pour le Nigeria qui consolide sa première place dans le groupe D avec 10 points, 4 de plus que le Bénin, son futur adversaire. Le Rwanda classé 3e compte 5 points et la Libye ferme la marche avec 1 point.
Sur la pelouse, cette fois-ci, on jouait le premier tour aller des éliminatoires du CHAN 2025.
Des qualifications organisées par zone et qui prendront fin en décembre prochain. Et le Libéria a pris une option sur la qualification dans la zone UFOA-A en allant battre la Sierra Leone 2-0. Le Togo aussi s'est rassuré en dominant le Bénin 2-0 dans la zone B de l'UFOA. Pour le reste, dans la zone CECAFA, victoire 2-0 du Soudan du Sud opposé au Kenya, Djibouti et le Soudan ont réalisé l'essentiel 1-0 devant respectivement le Rwanda et la Tanzanie. Et puis, belle performance de l'Eswatini qui est allé corriger 3-0 le Zimbabwe dans la zone COSAFA pendant que le Lesotho réalisait le minimum 1-0 contre la Namibie.
Et puis, dans le sable, le Sénégal reste le roi incontesté du beach soccer africain.
Et c'est après avoir remporté sa 8e CAN en Égypte devant la Mauritanie. Battu en ouverture par cette surprenante équipe mauritanienne, le quadruple tenant du titre sénégalais a pris sa revanche en finale en s'imposant sur la marque de 6-1. Belle réaction donc des Lions du Sable, coaché par Jean Ngala Sila, qui est satisfait du progrès effectué par son équipe pour garder le trophée pour la 5e fois de suite.
C'était pas du tout évident. Quand tu débutes avec une défaite, il fallait avoir un mental de fer, il faut y croire jusqu'au bout. Mais moi, je crois à mes qualités, avec tout le monde ici, je sais qu'on a une belle équipe et puis on peut perdre dans un tournoi. Et on a vu qu'une équipe qui monte en puissance. Par rapport à la Mauritanie, c'est une belle formation. On a joué plusieurs matchs avec la Mauritanie en amical, 16h chez nous. Et après, il fallait étudier la Mauritanie, c'est bien vrai, le premier match, on n'était pas du tout rentré dans le match parce qu'il y avait des doutes. Et après, voilà, le Sénégal était meilleur aujourd'hui.
Jean Ngala Sila, c'est l'honneur de l'équipe du Sénégal de beach soccer. Pour être au complet, c'est le Maroc qui finit à la 3e place en battant l'Égypte 4-3.
Merci Élisée. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yakuba Ouédraogo, Michel Joseph à la réalisation. Ainsi va le monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.